À Ouagadougou, à Gao et à Dakar, bienvenue dans Sahel Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, aujourd'hui au sommaire de Sahel Plus. Transition au Burkina Faso, quels sont les défis qui attendent le pays ? Gros plan sur l'AEN, une ONG malienne qui vient de fêter ses 30 ans d'existence.
Avant, nous faisons 20 km, c'est la dure. Nous partons jusqu'à Doro pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
Reportage de Boubacar Touré à suivre. Enfin, au Sénégal, le président Macky Sall appelle les députés de l'Assemblée à voter d'urgence la loi sur la presse. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Chez Rebelle Orsil à Washington. Le chef rebelle centrafricain Abdoulaye Meskine a été relâché de sa prison camerounaise moins de 48 heures après la libération du prêtre polonais Mateusz Dziedzic, retenu en otage pendant plus de mois par ses hommes, a constaté un journaliste de l'AFP. Monsieur Meskine a été présenté à la presse jeudi soir à l'aéroport de Brazzaville par les autorités congolaises à sa descente d'avion en présence du père polonais. Les deux hommes devaient ensuite rencontrer le président congolais Denis Sassou Nguesso, médiateur régional pour la crise centrafricaine, pour le remercier du rôle qu'il a joué dans leur libération. M. Meskine est apparu libre de ses mouvements, mais on ignorait jeudi soir s'il serait autorisé à quitter le Congo. Au Burkina Faso, le général de brigade Gilbert Diendéré, un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, décrié par la population, a été démis de ses fonctions. La présidence de la transition a émis un arrêté mettant fin à ses fonctions en tant que chef de l'état-major particulier de la présidence du Faso. Une mesure similaire a été prise à l'encontre de deux autres fonctionnaires de l'ancien régime, le conseiller spécial de Blaise Compaoré, Damo Justin Barrault, et le secrétaire permanent du conseil présidentiel pour l'investissement, Djibrina Barry. L'Assemblée intérimaire du Faso a tenu aujourd'hui sa première session en présence de ses 90 conseillers, les représentants, plutôt le conseil présidé par un civil, le journaliste Chérif Mouminassi, aura de vrais pouvoirs législatifs. La Guinée accueille ce vendredi le président français François Hollande. Durant cette visite, un accord sera signé pour la création d'un institut Pasteur à Conakry fin 2016. La France est présente en Guinée, rappellent les autorités, dans la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola. Deux jours avant cette visite, le président guinéen Alpha Condé a averti qu'il ne tolérera pas de manifestations de rue tant qu'Ebola sévit dans le pays. Le président François Hollande a loué aujourd'hui les qualités de la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean pour succéder à Abdou Diouf à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie lors du sommet de l'organisation ce week-end à Dakar. Toutes les candidatures ont forcément des qualités. Celles de Michaëlle Jean sont bien connues, a déclaré le président français lors d'un entretien aux télévisions France 24, TV5 Monde et à Radio France Internationale. Cinq candidats se disputent la succession du Sénégalais Abdou Diouf. Il s'agit, outre Madame Jean, de l'ancien président burundais Pierre Buyoya, de l'ex-premier ministre mauricien Jean-Claude Delestra, de l'écrivain et actuel ambassadeur du Congo à Paris Henri Lopez et de l'équato-guinéen Agustin Nzenfumo.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le chef suprême de l'Iran a apporté ce jeudi son soutien à la prolongation des négociations nucléaires entre son pays et les grandes puissances, après le récent échec des discussions de Vienne pour sceller un accord. L'ayatollah Ali Khamenei a déclaré que les puissances occidentales ont davantage à perdre en cas d'échec total des négociations. Les États-Unis se disent horrifiés en apprenant que le gouvernement syrien de Bachar al-Assad a tué des dizaines de civils dans des frappes aériennes mardi contre la ville de Raqqa, bastion de l'État islamique en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, au moins 95 personnes ont été tuées dans les raids de l'aviation syrienne, y compris 52 civils. Washington, qui lutte aussi contre l'État islamique, continue d'appeler au départ de Bachar al-Assad comme moyen d'arriver à une solution politique sans violence en Syrie. La tempête hivernale, qui a causé retard et annulation de vols mercredi sur toute la côte nord-est des États-Unis, était retombée ce jeudi, mais des milliers de personnes se retrouvaient privées d'électricité pour ce jour férié de Thanksgiving, au jour d'action de grâce aux États-Unis. Quelques 300 000 personnes n'avaient pas de courant à la suite de la tempête. Plus de 9 000 vols ont été annulés ou retardés hier aux États-Unis, où le mauvais temps sur la côte nord-est est venu contrarier les plans de millions d'Américains voyageant pour la fête de Thanksgiving. Attentat suicide aujourd'hui à Kaboul, Au moins 5 personnes sont mortes, dont un citoyen britannique, lorsqu'un kamikaze a percuté un véhicule de l'ambassade de la Grande-Bretagne avec une voiture bourrée d'explosifs. L'attaque revendiquée par les talibans a également fait 33 blessés, selon le ministère afghan de l'Intérieur. Ici, Chérubin Dorsil.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. Nous ouvrons l'émission avec le Burkina Faso en transition politique pendant un an jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Quels défis attendent maintenant le pays des hommes intègres ? Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Niaka Lagoke, fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum.
Comme tout processus révolutionnaire, il y aura des tentatives de bloquer ou de réduire le mouvement révolutionnaire qui se passe au Burkina Faso. Mais compte tenu de la maturité des jeunes qu'on appelle la génération Sankara, et puis compte tenu du fait que ceux qui ont organisé la lutte et ces jeunes-là ont une conscience politique assez élevée, je pense qu'ils sont assez vigilants. Je pense qu'ils seront les gardiens de la révolution et donc il se peut que la révolution ne déraille pas. Mais pour parler rapidement de Michel Kafando, j'ai lu sa biographie. Et bon, je m'attendais à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que c'est une révolution qui a emporté Blaise Compaoré. Et de savoir que ceux qui ont fait partie Blaise se réclamaient de Thomas Sankara et voient un président de transition qui a servi tous les régimes au Burkina Faso, bien avant Thomas Sankara et après jusqu'à Blaise Compaoré, mais sauf le gouvernement de Thomas Sankara, ça me laisse un peu un goût d'inachevé, quoi.
En même temps, d'aucuns disent qu'il fallait tourner la page sans pour autant engager une chasse aux sorcières.
Bien sûr, mais il y a quand même des dignitaires de l'ancien régime qui sont en prison. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ont même arrêté un ancien directeur général. Mais bon, ils ont des comptes à rendre. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'il y ait la chasse aux sorcières, mais il faut aussi reconnaître que le régime de Blaise Compaoré a fait beaucoup de mauvaises choses. Tuer Thomas Sankara, c'était l'espoir de l'Afrique qui a été assassiné. Et tôt ou tard, il devrait répondre. Même si on devrait lui pardonner. Mais je pense que tôt ou tard, il devrait répondre à ce crime-là.
La coalition qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir n'avait apparemment comme seul point commun que le rejet de Compaoré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Compaoré est parti?
D'abord, il y a le mouvement pour le progrès du peuple là, de Christian Roch Kabore qui va naturellement entrer en compétition parce que Kabore cherchera à être président. Tout comme Zéphirin Diabré, le leader de l'opposition de l'Union pour le progrès, le changement, l'UPC, qui va chercher naturellement à être président. Ça fait déjà deux. Donc ça veut dire que cette coalition va, je dirais, s'effriter et éclater. Et c'était une coalition pour le changement. Maintenant, chacun va aller de son côté. Et les jeunes qui constituent la nouvelle énergie du mouvement révolutionnaire Burkina, dirigé par plusieurs groupes qui se réclament de Thomas Sankara, dont le mouvement Le Ballet Citoyen, ils ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas au pouvoir, mais qu'ils allaient contrôler ceux qui allait diriger le pays. Et donc, je pense que c'est une première en Afrique subsaharienne de voir des gens avec une telle conscience politique et qui veulent impliquer les jeunes, les sans-emploi, les planteurs et diverses couches de la société dans le processus politique. Et donc, je pense que c'est ce qui manque souvent en Afrique. Quand il y a une élection, les populations africaines ont tendance à laisser leur destin dans les mains des leaders et qui sont des êtres humains et qui sont donc faillibles. Et donc, quand ils arrivent à fauter, donc ça devient naturellement un suicide collectif.
Niaka Lagoke, fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum, joint à Washington. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102.4 FM à Ouagadougou, au Burkina Faso. Nous sommes au Mali pour notre dossier. L'aide de l'église norvégienne, l'AEN, organisation humanitaire née en 1947 après la Seconde Guerre mondiale, s'est installée au Mali en 1984 à la suite de l'appel lancé par les autorités maliennes d'alors pour faire face à la grande sécheresse qu'a connue le pays cette année-là. C'est à partir de 2002 que l'AEN a commencé à intervenir dans les régions du Nord, à Gao, à Tombouctou et à Kidal, pour venir en aide aux populations dans un cadre humanitaire. L'ONG vient de fêter le 30e anniversaire de son arrivée au Mali et notre correspondant à Gao, Boubacar Touré, a pu assister aux festivités.
Organisation non gouvernementale qui a son mandat des églises en Norvège. L'aide de l'église norvégienne AEN a été fondée en 1947. Installée au Mali en 1984, l'AEN a fêté ses 30 ans de présence au Mali le 13 novembre dernier en présence des autorités locales, les populations bénéficiaires et les ONG internationales.
Il y a trois mots essentiels en parlant de l'aide de l'église norvégienne. On voit aide, on voit église et le troisième, Norvège. Cela ne voudrait nullement dire que l'aide de l'église norvégienne est une organisation d'évangélisation. Nous sommes une organisation humanitaire.
Pourquoi le choix du Mali? Son coordinateur régional, Lassine Sidibé, nous explique.
Suite à une grande sécheresse, le gouvernement du Mali de l'époque avait demandé donc à l'ensemble des pays qui étaient capables de l'aider à assister les populations en détresse. Donc c'est ainsi que l'ANR a répondu à l'appel. Dans les années 99-2000, il y a eu une autre orientation. C'est de travailler cette fois-ci avec les ONG et national dans les zones d'intervention de l'AEN qui sont les trois régions du Nord, Gao, Kidal et Tombouctou.
Sauver des vies, lutter contre la faim et la malnutrition, atténuer les impacts négatifs de la sécheresse et du conflit armé sur les populations sont entre autres les principales priorités de l'AEN. Pour atteindre ces objectifs, l'aide de l'église norvégienne a fait confiance à des ONG locales de Gao qui exécutent ces programmes, comme le témoigne Dr Hamada Mega, directeur de l'ONG GREP.
L'AEN a préparé un partenariat avec les ONG nationaux. Les domaines de partenariat sont variés et touchent plusieurs domaines avec des moyens financiers conséquents. Les projets concernés sont entre autres le projet moyen d'existence, les agères en faveur des femmes, des jeunes, des éleveurs, le renforcement des capacités des élus, des producteurs, également un projet de changement climatique et l'élaboration des plans de résilience.
Quel est l'impact de ces années d'assistance humanitaire dans la région? Notre équipe de reportage s'est rendue dans certaines communes bénéficiaires des programmes de l'AEN. Dans la commune de Intilik, dans le Gourmand, c'est l'ONG TASAG qui exécute les programmes d'assistance humanitaire. Voici le témoignage de certains bénéficiaires.
Je m'appelle Tadeu, je suis à Tinajuruf. C'est nous qui faisons la corvée d'eau. Avant, nous faisons 20 km, c'est-à-dire nous partons jusqu'à Doro pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je demande à tous ceux qui sont partis de revenir parce qu'il y a de l'eau et de la bonne eau en abondance.
Je m'appelle Mohamed Ibrahim Agmahi. Je suis à Tinlatan. Ce que l'ONG TASAG a fait chez nous nous réconforte à plus d'un titre parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre sans eau. Le forage nous a permis de construire des écoles pour nos enfants. Il permet de fixer les gens. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est qu'avant la réalisation de ce forage, beaucoup de gens étaient atteints du ver de Guinée. Aujourd'hui, la maladie du ver de Guinée est carrément éradiquée dans notre zone parce que nous avons de l'eau potable.
Gao, Boubacar Touré pour Sahel Plus sur la voie de l'Amérique.
Rendez-vous demain pour la seconde partie du reportage de Boubacar Touré sur l'ONG AEN, l'aide de l'église norvégienne. Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique et sur le 101.7 FM à Gao, au Mali, sur la radio Ahadar Koïma. Au Sénégal, le président Macky Sall a appelé les députés de l'Assemblée à voter d'urgence la loi sur la presse. Ce projet est en souffrance depuis bientôt 5 ans et ce sont les députés du parti au pouvoir qui traînent les pieds. Pour une explication, Idriss Fall a joint Jean Meissa Diop du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, à Dakar.
Cela coince à cause d'une disposition préconisant la dépénalisation du délit de presse. Ça veut dire qu'un journaliste qui commet un délit de presse ne pourra pas être emprisonné. Cette disposition-là n'est pas acceptée par le président du groupe parlementaire Benoît Boukyakar à l'Assemblée nationale, Moustapha Diakhaté. Il dit que jamais il ne voterait cette dépénalisation du délit de presse qui donnerait aux journalistes l'impression d'être des citoyens pas comme les autres. C'est-à-dire qu'un journaliste qui commet un délit dans le cadre de l'exercice de sa profession ne pourrait pas aller en prison, alors que, comme le disaient d'autres, comme médecin qui commet une erreur médicale peut aller en prison. Ça achoppe autour de cette disposition-là.
Il y a aussi la responsabilité des journalistes, parce que quand même, nos confrères, parfois, ils débordent.
Alors, la disposition alternative, c'est la sanction pécuniaire. C'est des peines de paiement d'amende qui peuvent être si lourdes et l'effet inverse. C'est-à-dire qu'un journal dans lequel aurait été commis un délit de presse pourrait subir des amendes tellement lourdes que sa survie en dépendrait. Ou bien même qu'il pourrait carrément être dans l'impossibilité de payer cette sanction pécuniaire et qui vont disparaître tout bonnement. C'est un mal contre un autre. Il faudrait donc choisir entre qu'un journaliste aille en prison pour un délit de presse ou bien qu'une entreprise de presse ferme tout bonnement à cause d'une sanction pécuniaire pour réparer un délit de presse.
Que dans ce code de la presse, on peut aussi soigner un mal récurrent au sein de la presse sénégalaise, c'est-à-dire les journalistes qui prennent de l'argent, qui reçoivent de l'argent, des perdièmes comme ils les appellent.
Je crois que c'est une question d'éthique et de déontologie qui pourrait se résoudre par d'abord une discipline personnelle ou au-delà de la discipline normative, par exemple. Quelles que soient, par exemple, les rigueurs du code de la déontologie, je crois que c'est une question d'abord individuelle. Il appartient aux journalistes d'avoir suffisamment de caractère, d'avoir suffisamment d'équité, d'avoir suffisamment d'honnêteté et de probité pour refuser un perdième ou bien bon de toucher de l'argent indu en récompense a priori d'un travail qu'il ferait.
Et vous pensez que cette loi va être adoptée à l'Assemblée quand même?
On verra bien, d'autant plus que le président a dit qu'il y a urgence à voter ce code. Espérons qu'il va se faire entendre par sa majorité à l'Assemblée nationale. Le président du groupe parlementaire de la majorité a été très clair. Il dit pas question de voter ce code qui consacre la dépénalisation du délit de presse. Il donnerait l'impression aux journalistes, le sentiment d'être des citoyens au-dessus des autres.
Jean-Méissa Diop du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, CNRA, à Dakar. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Au montage, Michel Joseph. À la technique, Wojtek Journiak. Au micro, Claire Moragibour. Nous nous quittons en musique avec Sia Tolno et son African Police. Dengo walk foreign, they walk under sun. Uniform don't they fit, shoes have don't they bend. We the beg una for help for police them. We the beg una. Rendez-vous demain, 21h, temps universel, sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous. We for no for say police na chain work o. If na office he dey work for, he gets him pass. If na state house he dey work for, he gets him pass. Local policeman, eh.
Poverty.